France Musique. France Musique, les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Hopkinson Smith, je suis né à New York en 1946 et je suis musicien. Chose avec le luth au début qui m'intéressait, c'était l'aspect un peu archaïque et la forme et le mystère, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités de trouver la musique de luth à l'époque. Il fallait vraiment chercher dans les archives et tout ça. Donc c'est un aspect.
On est là, on parle du luth renaissance, du luth baroque, on parle aussi de la viola, on n'a pas encore parlé du théorbe, de l'archiluth, on aurait pu, on va peut-être le faire, la guitare baroque. Tout ça, c'est une même famille.
De point de vue organologique, constructeur d'instruments, il y a plusieurs familles. Il y a la famille de la guitare avec la viola et la famille du luth qui va de luth renaissance jusqu'au théorbe, quoi. Il y a quelque chose de l'esthétique pour la main droite et certaines choses pour la main gauche qui lie tous ces instruments. Et c'est la sonorité et la recherche de la sonorité qu'il faut cultiver en chaque instrument qui est la clé à une possible magique qui sort de la musique.
Il y a quelque chose aussi de transparent aussi, on peut dire, peut-être, une forme de douceur, et puis ce son très fragile aussi, parce qu'il s'évanouit tout de suite.
Oui, c'est vrai. Oui, oui, ces sons, parce qu'il y a plusieurs, il y a beaucoup de possibilités de couleurs. Je dis toujours que le luth n'est pas moins expressif que le violon. Donc, et on peut essayer de retrouver toutes les nuances d'expression que la voix ou un instrument à cordes frottées peuvent réaliser. On peut le faire au luth.
Le luth et la voix, c'est très proche, en effet.
Et tu sais, ça dépend de la voix. Parce que si la voix s'approche à la sonorité de l'instrument, et si la voix peut se retrouver entre les cordes de l'instrument, et si le luth arrive à avoir des consonnes et les voyelles qu'un bon chanteur peut réaliser, donc on a une bonne base pour musique d'ensemble qui a un rapport spécial.
Mais il y a une forme aussi de jeu entre la langue et les notes. Dans la musique chantée, par exemple, vous évoquez une voix comme ça qui saurait se fondre dans le luth. Je pense évidemment à ce que vous avez fait avec Mariana Flores. On entend aussi dans les mélodies de John Dowland à quel point, parfois, les mots sont évidemment pas mis par hasard sur les notes.
Voilà. Donc, on a les pièces de Dowland, par exemple, où la deuxième strophe est une catastrophe pour la connexion des mots, des paroles, avec la musique, mais il y a des autres moments où l'un presque sort directement de luth, et ça c'est intéressant.
Thank you.
C'est vrai qu'il y a quand même dans le luth un instrument, on parlait du rapport entre le luth et la voix humaine, cette rhétorique aussi de cet instrument qui est très proche de notre voix, de l'art, de la confidence aussi, et qui suggère beaucoup. Le luth est un instrument qui suggère, qui invite. Il y a de la place pour l'imagination.
Oui, oui. Il y a surtout dans l'imagination la question polyphonique de connecter les voix.
Il faut peut-être expliquer l'idée des doubles cordes aux auditeurs qui ne savent
pas. Ça, c'est une autre question. Mais pour ça, de la connexion d'une note à l'autre, si on joue une note et on la connecte avec une note qui vient plus tard, il faut quand même qu'on ait une connexion dans la sonorité, dans la conception, et que les autres voix n'interrompent pas la voix lente. Et donc, ça, c'est une manière de suggérer le contrepoint. Je n'aime pas le mot que c'est un contrepoint imaginé, parce que c'est vrai, c'est pas imaginé. C'est quelque chose de vrai qui sort de l'instrument, qui a une capacité de faire des longues phrases. Par exemple, même si physiquement la note ne dure pas aussi que ça se ferait au violon ou un instrument à cordes frottées ou bien à l'orgue, mais au luth, avec cette suggestion, on le fait souvent d'une manière plus convaincante. La double corde, pourquoi on a double corde si une seule corde est plus forte? Mais ce qu'on gagne avec la double corde, c'est de toucher une autre région de l'âme musicale. Une subtilité, une transparence, c'est le mot que tu avais utilisé avant, une certaine transparence, une délicatesse, qui n'exclut pas la possibilité de jouer fort et jouer brut si c'est nécessaire, mais qui quand même, à la base, donne une sonorité, je ne veux pas dire civilisée, mais quelque chose de très riche en résonance intérieure.
Paul Audette, il était élève de Dombois aussi.
Voilà, il était là, oui. Et on était ensemble des élèves de Thomas Binkley. Binkley, le pionnier de musique médiévale surtout, qui était un caractère charismatique, qui gérait un cours de musique médiévale ici à la Scola pendant plusieurs années, avec Andrea von Drame, Sterling Jones, Richard Levitt, le Quatuor.
Il est votre cadet de quelques années, Paul Audette?
Oui, oui, il a, je crois, 8 ans ou 10 ans moins que moi.
Il est de 54.
Moi, je suis 46, donc.
Oui, 8 ans.
Voilà. Il était déjà un mystère, un phénomène avec 19 ans. Il n'avait pas de problème de technique, il était déjà incroyable.
C'est quoi la plus grande difficulté avec les instruments de la famille du luth? Quand on pense main droite, main gauche, je vous vois parler de Paul Audette et aucune difficulté technique. La main droite, évidemment, est très importante. C'est elle qui joue sur le manche. La main gauche génère le rythme, l'émotion. Mais est-ce que la main droite ne la fait pas aussi?
C'est les deux choses. Et il y a une remarque intéressante dans le livre de Dowland. Il dit que la main gauche est la mère de la mélodie. Dans le sens que tu touches bien et tu gardes les doigts, par exemple, sur le manche, et le fait de mettre une certaine pression ici avec la main gauche se communique dans ce que tu fais avec la main droite. Donc, si la main gauche est très légère et très vite, la main droite fait la même chose. Si tu as une pavane avec des accords, des gros accords et des choses graves, la main droite essaie de jouer de la même façon. Donc, il y a quand même un accord intime entre ce que font les deux mains. Et quelquefois, si la main gauche est très difficile, très exigeant, une pièce, et la main droite doit être tout à fait léger et suggestive. Donc, c'est pas toujours facile.
Et j'imagine qu'il y a des moments où il y a des compositeurs aussi qui jouent sur cette tension.
Tout à fait. Oui, et pour ça, il faut que au moins, moi, j'ai énormément besoin de travailler pour arriver à un but qui me plaît.
France Musique, les grands entretiens de Hopkinson Smith.
Des années 80, vous allez, on avance petit à petit dans le temps.
Voilà, je note.
Et au milieu des années 80, vous allez petit à petit, hein, vous nous l'avez dit, mais affermir cette idée que vous vous tournez vers une carrière solo, Lonesome Cowboy, quoi.
Vous... c'est pas vers une carrière, c'est vers
une pratique.
Une pratique, voilà. Parce que la carrière semble comme si tu avais des concerts tout le temps, mm-hmm. et c'est jamais le cas.
En tout cas, vous choisissez de vous concentrer sur le travail en solo. Ça nécessite une vie intérieure forte.
Oui, et beaucoup de temps, on est un peu seul, mais il faut toujours se souvenir que cette solitude est nécessaire pour cultiver ce que tu cherches. Je regarde toujours en avance. Comme je suis sagittaire, on m'a dit que c'est normal pour le sagittaire qui regarde en avant. Et c'est ce que j'ai toujours des projets à faire et le temps de le faire, j'espère, c'est un aspect de ma vie de soliste.
C'est-à-dire que vous n'avez pas connu le découragement ?
Oh, ça arrive toujours. Oui, il y a plusieurs concerts qui ne sont pas bien allés, et dans la nuit, je dis, est-ce que je vais arrêter tout ça? Ou, c'est pas pour moi, oh, j'ai honte de quelque chose que j'avais mal fait. Mais normalement, le matin, je reprends.
C'est
avec la lumière du matin, j'ai dit, oh, je vais quand même essayer, continuer.
Vous évoquez la lumière, c'est quelque chose qui m'interroge aussi de votre rapport à la nature, parce que vous nous avez dit que vous avez été pas mal ballotté finalement hein, dans votre enfance, entre quelques temps ici en Europe, entre une pension, mais des années de jeunesse aussi qui se passent à la campagne, à 5 heures de New York. Ici, on se trouve chez vous, à Bâle, sur les hauteurs, dans un endroit calme, avec l'extérieur qui est tout proche de l'intérieur. La nature, c'est quelque chose d'important pour le solitaire et sa pratique, justement. Quelque chose de nourrissant. Quelle est la part de la nature dans votre vie?
Oui, c'est bien dit. On a énormément de chance de vivre dans un quartier résidentiel qui est pas loin des champs où les fermiers font leur travail. Et donc, il faut toujours sortir et prendre un peu le regard de la panorama et voir l'horizon. Et je fais beaucoup de vélo. Donc, on n'a pas de voiture, je fais les courses en vélo. Et quelquefois, si j'ai passé plusieurs heures à la maison, en train d'étudier, je sors une heure ou deux sur le vélo, et surtout en hiver maintenant avec le froid, c'est presque comme aller faire du ski pour la sens de l'air froid et le vent et le bien-être que ça donne.
Se l'aura spira tutta vezzosa, la fresca rosa ridente sta, la siepe ombrosa di bei smeraldi, destini caldi timor non ha. A balli, liete venite, in ve gradite fior di beltà. Or che si chiaro il vago fonte all'alto monte la senda, suoi dolci versi spiega l'augello e l'arbuscello fiorito sta. Un volto bello all'ombra tanto sol si diavando da ben pietà. Accanto, accanto, rinteri denti, scacciate i venti di crudeltà.
Vous avez un rapport tranquille au temps, vous diriez, au temps qui passe, Le fait de regarder devant, de prendre le temps de travailler.
Dans une journée idéale, j'ai le temps, après le petit déjeuner, je ne mets pas l'ordinateur, j'y vais directement à l'instrument pour faire mes recherches de techniques et d'essayer des nouvelles combinaisons des doigts, de chercher une solution à un problème qu'il y a dans une pièce, ou bien de travailler de très haut sur l'instrument, au très bas, toutes les registres et des choses comme ça. Ça me donne un très bon moment de satisfaction. Et après, je prends un café ou je regarde un peu le journal et je travaille répertoire de certaines choses qui me concernent. Et souvent, je suis quelqu'un du matin. Mais ça n'exclut pas que quelquefois le soir aussi, j'ai la même expérience. Et il y a beaucoup de jours où on est occupé le matin avec autre chose ou bien pris quelque part. Et donc, il faut repenser la journée. Et maintenant, j'ai pas de concert pour 6 semaines. Donc, il y a un peu plus d'aisance dans l'organisation du temps pour des rencontres sociales, pour faire quelque chose d'intéressant avec les petits-enfants, etc., qui me plaît. Mais normalement, si j'ai des concerts, il faut que je reste un peu plus avec l'instrument chaque jour.
Quand vous dites que vous faites vos recherches, ça veut dire, au pic, qu'il y a des choses qui vous résistent encore? Est-ce qu'il y a des répertoires pour lesquels vous sentez que, même si vous les jouez en concert, même si parfois vous les avez peut-être même enregistrés, vous sentez que vous n'avez pas en fait encore trouvé la vérité, c'est peut-être un grand mot, mais la vérité de l'œuvre jouée?
Une vérité, oui, peut-être. C'est pas que ça résiste, mais ce qu'on cherche, c'est une manière très fluide et dynamique de réaliser ce petit défi et d'essayer d'être totalement uni avec l'instrument et bien dans sa peau en train de le jouer.
Vous avez évoqué là les petits-enfants. On est chez vous, je vois sur le piano, il y a en effet un leaderboard. Vos enfants ont fait de la musique ?
J'ai 3 enfants. Ils sont maintenant entre 37 et 42 ans. Et ils ont tous fait le piano et un autre instrument. Et l'aîné, Zacharias, il jouait la trompette, aussi dans le big band d'adolescents, très bien. Sammy, numéro 2, il joue très bien de violoncelle.
Pujol.
Voilà. Et Tatiana, elle a joué du violon. Mais tous les 3, ils ont un rapport avec le clavier aussi. Donc on a essayé. Sammy, il aurait pu être un très bon musicien. Il est un très bon musicien, mais il est architecte aussi maintenant.
Ah, il y a un atavisme familial.
Voilà, tout à fait.
Et Tatiana, c'est Tchaïkovski qui vous a inspiré, Tatiana?
Tu sais, une fois, je suis allé avec Tatiana, elle avait 12 ans, 10 ans, à un concert. Dimanche matin à 11h, il y avait le concerto de Tchaïkovski. Et la première pièce de concert était une ouverture de Rossini. C'est pas Guillaume Tell, c'est une autre. Et c'était tellement bien fait, et tellement bien préparé, et tellement énergique et incroyable, que le Tchaïkovski était vraiment la deuxième place, n'avait rien de l'immédiateté de Rossini. Intéressant.
Vous avez donc des enfants qui ont tous fait de la musique et votre femme est musicienne?
Elle est musicologue, elle a le diplôme de flûte à bec et elle est maintenant pour travailler sur les 3 livres qu'elle a fait sur la notation de la musique. Donc Karin Palsmeier est son nom. Le premier volume qui est sorti est celui de 17e et classique, c'est-à-dire baroque classique. La deuxième qui est sortie, c'est la Renaissance. Et ce sont 2 livres publiés par la Scola, Scola Cantorum de Bâle. Et le premier volume, médiéval, elle est en train de terminer les corrections et tout ça pour ce livre qui doit sortir en 23, je crois.
Ah, mais donc l'esprit de recherche est partout ici. En
fait. Oui, elle est une vraie chercheuse et elle est quelquefois tellement prise par le travail qu'elle est capable presque d'oublier le reste de la vie.
Beaucoup de paramètres de votre vie de musicien, interprète, créateur, pédagogue aussi. L'enseignement est très, très important depuis toujours, cette idée de transmettre, vous nous le disiez un peu, aux élèves qui parviennent à trouver leur naturel. Enfin, on se demande toujours comment on peut enseigner le naturel. C'est quand même pas quelque chose de facile.
C'est quoi naturel avec la musique ? Je crois que naturel, c'est si on joue comme on chante, on a quand même quelque chose de très naturel. Si on peut chanter, il y a des musiciens qui sont horribles dans le chant. Et je ne veux pas dire la qualité de la voix, mais l'aspect musical. Donc si on chante un passage, si on chante et on joue pas, donc il y a une grande différence entre le modèle chanté et la version jouée. Et peut-être on passe trois quarts d'heure à jouer ces 1, 2, 3, 4, 5 notes pour qu'on puisse reconnaître un élément naturel. Et je passe, avec mes élèves, je passe beaucoup de temps à cultiver une sonorité propre et claire et qui se projette. Il y a des élèves qui comprennent ça et ils ont pour toujours. Il y a des autres élèves qui comprennent ça dans un moment et deux semaines plus tard, ils l'ont perdu. Donc, quelque chose de la cultivation de la sonorité est très importante et c'est pas toujours évident que c'est universel.
Edine Karamazov, l'un des brillants élèves de notre invité dans le prélude ici de la suite numéro 1, BWV 1007 de Jean-Sébastien Bach. C'est ainsi que se referme le quatrième épisode des Grands Entretiens avec Hopkinson Smith. Réalisation François Connac, prise de son Virginie Lorda, mixage Dofar Guérid, attaché de production Marie-Christine Ferdinand. Suite et fin de ce portrait, demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur l'application Radio France. À réécouter sur francemusique.fr.